Vous écoutez
RMC.
RMC.
I love your body, David. And your ass.
On réussit à égaliser 2-1.
Eux, ils vont avoir une motivation décuplée. Après, c'est à nous de se mettre à la hauteur de l'événement et de mettre toute l'investigation qu'il faut nécessaire pour le match.
L'After Foot, Intégral Euro.
Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo, avec Walid Acharchour, il est 23h, vous êtes sur RMC. On vous rappelle demain, première demi-finale de l'Euro entre l'Espagne et la France à Munich. Grosse page espagnole à venir dans l'After avec notre Fred Hermel. Salut Fredo.
Hola chicos.
Ça va Fredo?
Bah écoute, ça va, tranquille pour demain. C'est...
Ah ouais, tranquille.
Ça se prépare tout demain. Tu sais, moi, à la fin, j'aurais gagné, quoi qu'il arrive.
C'est vrai. C'est surtout si c'est l'Angleterre.
Ah bah non, dans les deux cas, tu peux perdre en finale.
Surtout si c'est l'Angleterre, oui. Mais...
Ah non, mais je veux pas perdre contre l'Angleterre.
Ah moi. Oui, mais alors.
Ah non, finale, non.
Alors, il y a plein de dossiers. Il y a plein de dossiers autour de la Roja avant cette demi contre la France.
Espagne-Angleterre, tu sais que la dernière finale féminine, c'est Espagne-Angleterre.
Ouais.
La dernière finale de Euro Espoir, c'est Espagne-Angleterre.
Oh, c'est un signe, ça, tu veux dire?
Non, mais je.
Alors, on rappelle qu'il y a trois joueurs majeurs de l'Espagne qui seront absents contre les Bleus. Carvajal est le Normand suspendu, Pedri blessé. Alors, pour toi, avec l'absence du latéral du Real, il y a un duel qui devrait être entre Jesús Navas et Mbappé qui devrait être la clé du match. Déjà, la question, parce qu'on en parlait déjà un peu tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment Navas qui va jouer face à Mbappé demain?
À moins que Luis de la Fuente décide de mettre Nacho, qui a, dans une certaine époque, joué souvent, joué latéral.
Absolument, c'est pour ça que moi je mise là-dessus.
Dépanné.
Et dis donc, Navas, il est pas dans le France-Espagne de 2012?
Il doit être sur le banc.
Bah, je me demande s'il joue pas ce match.
Il doit rentrer.
Il a 38 ans. Donc
non, il est sur
le 2-0 à l'Euro.
Ouais, surrestant dans la liste, il est là. Mais
c'est ça qu'il est, mais je me demande s'il joue pas le match.
Mais il joue pas latéral à cette époque.
Non, il jouait lié. Mais non, je crois qu'il est. Je vais vérifier.
Je vais voir.
Mais aujourd'hui,
sa présence sur le terrain me dit quelque chose.
Aujourd'hui, Navas est un joueur quasi retraité, hein, donc voilà.
Il est sur le banc, me confirme Jérôme Thomas.
Il rentre pas. J'ai sa tête. Il a joué dans d'autres matchs.
Il a
peut-être
le
match au Stade de France, la première de Pogba et Varane un peu plus tard.
Vas-y Fredo, c'est quoi la tendance alors pour le couloir droit en l'absence de Carvajal alors?
La tendance c'est Navas, mais c'est une demi-finale, donc quand même le sélectionneur il joue un peu au bluff, hein, donc on va dire aujourd'hui que c'est 80% Navas, mais que c'est il y a 20% du fait que ce soit Nacho et que Viviane de l'Athletic Club de Bilbao entre à la place de Nacho en chaleur centrale à côté de la porte. C'est vrai que côté gauche, ils ont beaucoup de monde, hein, parce qu'ils ont Cucurella qui a un niveau exceptionnel dans cet Euro. Et puis il y a Grimaldo aussi, hein, du Bayern Leverkusen qui peut être là au cas où. Mais à droite, Carvajal. Alors c'est déjà l'absence de Carvajal est énorme parce que le type, on le sait, hein, c'est un gagneur. Il est chiant sur un terrain.
Surtout il a le caractère pour énerver les mecs.
Ah oui. Alors c'est vrai que c'est vraiment, hein, c'est pour moi c'est le de toute l'équipe. Ça me paraît, pour plein de raisons, face à la France, l'absence la plus importante.
Ouais.
Justement par le poste qu'il joue, parce que si Mbappé se réveille un petit peu, ça peut faire mal. Et
alors, s'il ne se réveille pas contre Jesús Navas, il ne se réveillera jamais.
Alors là,
38 ans, mec, il arrête sa carrière
s'il ne met pas un courant d'air. Là.
Parce que Nacho et deux joueurs qui vont jouer en Arabie Saoudite. Hein.
Mais alors après, il y a aussi un dispositif tactique qui est très évident, hein, je veux dire, même si on en parlait tout à l'heure, Fabien Ruiz dit qu'il n'y a pas de plan anti-Mbappé, s'il y a un plan anti-Mbappé, parce qu'il y a aussi Navas. Et ça sera très simple, c'est qu'il faut qu'il y ait des couvertures. Et les couvertures, c'est Nacho qui va devoir couvrir, et aussi Rodri qui va être très très occupé pour venir assister Navas.
Et qu'il y aura Colomani sur le dos.
Et voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'autre côté...
Il y aura des espaces.
D'où la réflexion qu'on se faisait déjà avec coach dimanche, c'est que là la présence de Dembélé nous paraît et me paraît personnellement très importante parce que automatiquement, la présence de Navas fait que ça va déplacer la défense sur Navas face à Mbappé et donc ça peut ouvrir du côté de Dembélé. Donc on a peut-être besoin d'un joueur de ces caractéristiques-là face à Cucurella qui sera tout seul. Face à celui qui sera titulaire, on espère Dembélé, et parce qu'il y aura logiquement ce déplacement de Rodri et de la défense de la centrale. Donc je trouve que c'est un match qui réserve réserve beaucoup de réflexions et beaucoup de solutions tactiques. Demain, ça sera très intéressant à observer.
Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que De La Fuente, il a fait cette analyse-là en parlant de ses joueurs. En disant, moi, j'ai parlé avec Yamal, je lui ai dit, s'il y a trois joueurs sur toi, bah, c'est cool parce que ça va libérer des espaces à Nico Williams qui devrait avoir Koundé face à lui. Vas-y.
Non, moi, je dis que surtout la perte de Carvajal, au-delà de l'aspect défensif, sur l'aspect offensif, je trouve qu'il y a beaucoup de connexions avec Yamal depuis le début de la compétition.
Ah, mais humainement aussi. Techniquement
et
humainement.
Et qu'il y a beaucoup de situations espagnoles qui se décantent grâce à leur combinaison. Et même ça, je suis pas sûr qu'avec Jesús Navas, si Jesús Navas démarre, je suis pas sûr. En plus, je regardais un peu les stats, c'est souvent avec le FC Séville, souvent 70 minutes, 60 minutes. Donc, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de caisses. Si le match perdure, ça peut être compliqué parce que tu vas devoir aussi trouver une solution pour les Espagnols en cours de match. Donc, c'est une vraie perte.
Ouais, autre match dans le match, hein, donc ce sera Koundé également face à Nico Williams. Il a beaucoup été question d'ailleurs de Nico Williams dans la conf de presse de De La Fuente aujourd'hui. Il a été comparé notamment à Kylian Mbappé, il a encensé les deux. Bon, Luis De La Fuente qui est un bon communicant aussi, Fredo. Mais ça va être intéressant de voir également ce duel entre ces deux joueurs, là, Koundé et Nico Williams.
Oui, voilà, d'autant plus qu'on parle beaucoup de Nico Williams parce que le Barça veut Nico Williams.
Alors Laporta, bon, qui a carrément, alors il a balancé.
Il dit qu'il a l'argent. On peut se permettre
de faire un transfert comme celui de Nico Williams, a-t-il dit. Nous avons les moyens d'assurer ce transfert, c'est une possibilité sur laquelle on travaille avec Hansi Flick. Voilà.
Ouais, après, Nico Williams, il est à la tête du club de Bilbao, qui est un club qui paye très bien, qui sait très très bien retenir ses joueurs. Donc il va falloir mettre de
la clause, elle serait autour des 60 millions d'euros, la clause libératoire.
Oui, mais après, il y a le salaire aussi. Hein. Ouais.
Nico Williams, Yamal au Barça et Vinicius Mbappé au Real.
Ouais, c'est pas dégueu.
Ça donne envie de voir la Ligue l'année prochaine.
Ah ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que logiquement, le Barça a envie de créer cette.
Ça tombe bien, tu seras pas emmerdé avec les matchs de Ligue 1, on les verra pas à la télé. T'auras du temps.
Donc Koundé. Alors moi, Koundé, moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans beaucoup de classico Barça-Real ou Real-Barça, Xavi ne mettait pas Koundé latéral droit, il mettait Araujo face à Vinicius. Vous vous souvenez de ça?
Ouais, ouais.
Parce qu'il ne faisait pas de confiance à Koundé. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que 8 fois sur 10, il y a eu beaucoup de classicos, il a mis Araujo, et soit il a pas fait jouer Koundé, ou soit il a mis Koundé en défense centrale.
Tiens, je t'arrête deux secondes, Fredo. Je me suis en mode Julien Laurence. C'est fini au basket entre la France et l'Allemagne, un match de prépa pour les Jeux Olympiques, Alex Biggerstaff. Apparemment, c'est fini pour Alex aussi.
Il est parti,
mon bibi. 70-65. Ils ont perdu. Ils ont perdu, Jérôme Thomas, me dit Jérôme Thomas. 70-65.
Et du coup, il s'est barré.
Voilà, bah, je lui ai dit dégoûté, bibi. Non, il est parti chercher la réaction. Que vous retrouverez sur rmcsport.fr, bien entendu. Tiens, parlons un petit peu du milieu de terrain aussi, mon Fredo. Alors, il y a un joueur qui se révèle au cours de 7 euros. C'est Fabian Ruiz. Alors, qui s'est exprimé d'ailleurs aux Parisiens, à nos confrères du Parisien. On lui a demandé ce qu'il pensait des critiques dont il était souvent la cible en France. Il a répondu, je lis pas trop les critiques. Après, si certains me préfèrent en équipe nationale, plus en équipe nationale qu'en club, j'ai pas grand chose à leur dire. L'essentiel est de tout donner pour mes équipes. Je trouve que la manière de jouer au PSG et en Espagne se ressemble beaucoup avec des entraîneurs espagnols. Les deux adorent la possession. Est-ce que c'est devenu un taulier de l'Espagne, ce joueur, Fredo, là?
Ah oui, et franchement, personne ne s'attendait en Espagne à voir, à part peut-être son père, sa mère et sa famille, à voir Fabian Ruiz à ce niveau-là. Parce qu'en Espagne, c'est considéré comme un bon petit joueur. Tu vois ce que je veux dire, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais
en France aussi. Hein.
On l'a tous considéré toujours à peu près comme ça.
Un bon petit joueur,
même si c'est un gars qui est assez technique pour qu'on ait un peu plus d'affection pour lui, parce qu'on aime quand même toujours les gars qui manient le ballon.
En Espagne, des types aussi techniques que Fabian Ruiz, on a plein. Tu vois ce que je veux dire. Là, ce qui est intéressant, c'est la vista qu'il a, c'est le comment dire, la dimension de direction du jeu qu'il a pu prendre depuis cette début de cet euro. Je pense aussi que la première action qu'il fait, c'est au bout de quelques minutes face à la Croatie, c'est le premier match que l'Espagne craignait, c'est cette passe en profondeur absolument lumineuse pour Morata, et Morata, pour une fois, il loupe pas, il met le but. Et en fait, la mayonnaise a pris tout de suite, quoi. Et je pense que dans la tête d'un joueur comme ça, ça aide. Alors, on parle toujours de la confiance, j'aime pas ce mot-là. Mais tu vois, en disant, bah, tiens, ça marche. Et il y a une sorte de connexion qui s'est faite entre lui et les autres joueurs. Alors, on l'a déjà évoqué. Quand tu as un type comme Rodri à côté, Ou un trick comme Pedri. Pedri qui attire quand même beaucoup les rivaux. Et Rodri qui est quand même le meilleur milieu défensif au monde à l'heure actuelle. Ça te libère aussi. Donc, mais c'est vrai que Fabián Ruiz aujourd'hui, enfin jamais en Espagne on l'a vu à ce niveau, mais surtout dans les matchs qui se répètent en fait. Hein, voilà. Donc et en plus il marque. Il me donne des passes, il marque. Vous savez que Fabián Ruiz a mis cinq passes décisives dans un Euro. Et Iniesta et Xavi, c'est quatre. Donc vous voyez le niveau qu'il a atteint. Alors personne ne l'ose, ne va le comparer avec Xavi et Iniesta pour l'instant. Mais pour dire que il est effectif, qu'il est, il a des stats incroyables, Fabián Ruiz. Donc moi je trouve ça super qu'il se révèle. Et qui sait si l'année prochaine c'est un autre joueur qui va arriver au PSG.
Bah tiens, justement, on lui a demandé si il comptait quitter le PSG. Alors lui il a répondu: je sais que mon nom ressort à chaque mercato, mais je suis bien à Paris, il me reste 3 ans de contrat et j'ai encore beaucoup d'objectifs à atteindre avec le PSG. Donc il a l'air plutôt de s'y plaire,
en espérant qu'il revienne à Paris avec les mêmes prestations qu'avec l'Espagne.
À Paris, on sera quand même dans la deuxième année du génie, ce sera forcément mieux.
Non mais dans la tête, mais enfin ça arrive tous dans n'importe quelle carrière, dans n'importe quel milieu professionnel. À un moment tu réussis un grand truc et ça te fait évoluer et dans ta tête t'es plus fort, quoi. Et il y a toujours des passages comme ça, et peut-être que cet euro de Fabián Ruiz, qui quoi qu'il arrive est exceptionnel, lui aura fait passer un cap dans sa tête et qu'il sera bien meilleur l'année prochaine.
Si tu récupères Kimmich, t'as le Vitinha de 7 euros et t'as le Fabián Ruiz de 7 euros,
ça de la gueule.
Ça va être pas mal le Paris Saint-Germain.
Tiens, juste un petit mot vite fait également sur un autre milieu de terrain de la Roja, c'est Rodri.
Sans le génie français.
Ouais. Il a fait une interview au Guardian, on lui a demandé s'il était candidat au prochain Ballon d'Or. Alors il dit: je joue pas au foot pour ça. Peut-être que les gens aimeraient que ce soit plus vendeur, plus commercial. Et Morata me dit parfois: amigo, tu devrais l'être, un peu plus commercial, mais je perçois le football autrement. Mais bon, si un jour quelqu'un veut récompenser le travail, il sera le bienvenu. Mais ça ne me dérange pas du tout si, en gros, un jour, il n'a pas le ballon d'or.
Enfin, voilà. Sur le côté commercial, je pense que tous ceux qui regardent le football sont fans de Rodri. Hein.
Ouais. Mais non, mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il n'est pas forcément
Il n'est pas spectaculaire comme Vinicius, ouais. Il n'est pas spectaculaire comme les offensifs.
Ça, c'est souvent les 6, c'est comme ça.
Je pense que tout fan de football,
il arrive à comprendre énormément pour voir que c'est un top 3 player en ce moment.
Dans les noms que tu vas citer aujourd'hui, dans les meilleurs joueurs au monde.
Ah bah moi si j'ai une équipe, mon 6 c'est lui.
Je vois pas
comment tu peux faire autrement.
Ouais, j'hésite.
Tiens, un dernier mot avant de te lâcher, mon Fredo, sur Alvaro Morata. Alors qui a fait une sortie médiatique, une de plus, qui a fait beaucoup parler en Espagne. Il a fait une interview au quotidien El Mundo. Il est revenu sur les critiques dont il est souvent la cible en Espagne. Et il a dit: c'est vrai qu'en Espagne il m'est très difficile d'être heureux. En Espagne il n'y a aucun respect pour rien ni pour personne. Il laisse entendre d'ailleurs qu'il pourrait quitter la Roja après l'Euro. Ce sera peut-être le cas, dit-il, une possibilité dont je ne veux pas trop parler, mais c'est probable. Il a aussi déploré le fait que certains voulaient qu'il soit suspendu pour cette demi-finale face à la France. On se souvient qu'il y avait un carton jaune qui lui avait été donné par erreur. Enfin, il tape un gros coup de gueule et le timing n'a pas été très apprécié d'ailleurs en Espagne, hein, juste avant cette demi-finale.
Non, mais après, je le comprends. Moi, c'est pas un joueur que j'aime beaucoup, hein, mais je trouve un peu dégueulasse ce qui se passe autour de Morata. Morata est victime d'un mépris de classe à l'envers. C'est-à-dire que Morata est ce qu'on appelle un pijo en espagnol, c'est-à-dire un besbège, un petit bourgeois, quoi. Voilà, un papa cadre dans une grande radio, banlieue chic de Madrid, école privée, l'arrêt sur le côté et les cheveux avec de la gomina. Et Morata a toujours été un petit peu méprisé dans le milieu du football parce qu'il était un peu bourgeois. Et c'est vrai qu'il y a eu depuis des mois et même des années des attaques contre lui et sa famille où quand même des gens demandaient la mort de ses enfants, quand même on en est là, hein. C'est-à-dire il suscite une haine qui est absolument insupportable et c'est très dur pour lui même aujourd'hui de vivre en Espagne.
C'est-à-dire qu'il reposait sur quoi en fait?
Sur le fait qu'il a pas toujours eu une très bonne communication, mais il fait bourgeois, il fait vraiment pyro, tu vois, il est vraiment le prototype du pyro, et il y a une sorte de mépris pour lui à cause de ça. Et aussi le fait qu'il loupe souvent des occasions.
Oui, il y a ça aussi. Voilà. Il y a aussi l'aspect.
Ah oui, voilà, il y a deux choses. Il y a ça aussi. Mais enfin, je veux dire, on a le droit de louper des occasions. T'es pas obligé de demander la mort des enfants, quoi. Oui, c'est-à-dire la mort de sa femme. Et non, bien sûr, c'est absolument immonde les campagnes de dénigrement qu'il y a contre ce type. Et d'ailleurs, il pourrait aussi retourner en Italie. Il peut il laisse la porte ouverte de l'Atlético pour cet été aussi. Donc voilà, c'est alors pareil, c'est pas un grand joueur, moi je pense que c'est un bon petit joueur, Morata.
Il trouvera encore un très gros club, parce qu'il faudra me présenter l'agent de Morata quand même sur sa carrière.
Ben on parle de Milan,
le nombre de gros clubs qu'il a fait au gros montant, Morata.
Ah ouais.
Enfin, pour moi il mange toujours sur sa finale, sur
non,
sa...
le casque comme ça, t'aimes bien.
Sur sa demi-finale.
Il y a un côté DJ, ouais, un peu. Ouais.
C'est incroyable.
Vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube de l'acteur. Non mais garde-le, ça c'est cool. Il y a un côté Mickey Bourré,
on dirait Mickey Bourré. Je pouvais pas te prendre au sérieux, quoi.
Je voulais parler à Jérôme Thomas dans les ordres.
Ah,
mais pour moi, il mange encore sur sa demi-finale 2015 avec la Juventus contre le Real Madrid.
Tout le temps. Non mais il a toujours, on se souvient.
Il a quand même fait Chelsea, Atlético. Il est revenu au Real.
Il a
fait la Juventus, enfin la Juventus il y était. Là, s'il revient au Milan, c'est fort quand même. Hein. C'est très très fort.
Non mais en fait le problème c'est qu'on se souvient plus des ratés de Morata que de ses buts.
C'est vrai.
Et ça le poursuit, donc c'est compliqué pour lui. Après il peut t'en claquer quand il est dans un bon jour, il peut t'en claquer un demain, hein, il monte la tête, enfin je veux dire, puis
le capitaine
après,
de Steve, hein.
Ouais, alors ça c'est un peu bizarre. Je trouve que c'est un peu bizarre parce qu'il a pas forcément le caractère pour ça. Après devant les défenseurs centraux, il n'arrête pas de bouger, hein. C'est pas un attaquant immobile, hein, on va dire, hein. Moi je le trouve pas très fan, et d'ailleurs c'est dingue que l'Espagne n'ait pas un grand numéro 9. Ça c'est fou, quoi, tu vois. Mais voilà, faut s'en méfier, il sera titulaire demain bien entendu, Morata, parce qu'il a le soutien de son sélectionneur.
Ouais, il l'a défendu en conf. Merci Fredo, on te retrouve demain du coup, hein.
Merci les amis. Bah oui, bien sûr, hein.
Bonne soirée à toi mon Fredo, prépare-toi.
Viens avec nous à Bondy ou pas,
demi-finale.
Non, je vais regarder le match tranquillement télé, puis parce que moi j'écoute les médias espagnols en fait. Pour après vous apporter une analyse,
un éclairage
espagnol. Voilà,
c'est ça.
Donc moi je suis le match en espagnol.
Ah bon.
Voilà. Bah oui, bah que veux-tu. Hein.
C'est professionnel. Bon, hein.
Merci Fredo. À demain.
La Cadena Ser pour ne pas les citer.
Ciao, merci Fredo, bisous. Ciao. On rouvre le dossier des droits télé, nous, dans un instant. Maxime Saada, patron de Canal+, qui s'est exprimé. Jean-Pierre Caillot également s'est exprimé sur le dossier des droits télé. On fait le point dans un instant avec Walid Acharchour et Daniel Riolo sur RMC.
RMC, l'After Foot, Intégral Euro,
Nicolas Gillas.
Avec Daniel Riolo, avec Walid Acharchour, avec vous au 32-16, sur le chat de la chaîne YouTube de l'After Foot, hein, l'application Direct Studio, vous avez l'habitude. On est à J-1 de la demi-finale de l'Euro 2024, ce sera demain à partir de 17h, on sera à Bondy d'ailleurs, hein. Dispositif exceptionnel, là où tout a démarré pour William Saliba et Kylian Mbappé. On va rouvrir le dossier des droits télé, puisque alors à chaque jour suffit
quand
sa peine.
Quand tu vis à Bondy, tu dis quoi, Walid ?
C'est-à-dire ?
Ah, si ton adresse est à Bondy, comment tu dis ?
Ah, je suis un Bondinois ?
Non, mais si tu dis que t'as... Que tu vis à Bondy, tu dis comment ?
Ah, je vis à Bondy.
Tiens, mets bien le micro parce qu'elle est.
J'habite
pas...
à Bondy.
Ouais.
J'habite à Bondy.
Ouais, c'est drôle, ouais, c'est marrant. Non, c'est rigolo. Bah, si, c'est rigolo.
J'habite à Bondy.
Il comprend pas ce qu'on en plus.
Je comprends pas.
Non, mais c'est pas grave, on te montrera.
Ouais. Pour le coup, je comprends vraiment pas.
Allez, on rouvre le dossier des droits télé. On va commencer par.
J'ai eu du mal à l'emmener et tout.
Ouais, non, mais c'était bien.
Jingle ça où je vais passer pour un con.
Ouais. Non, mais il en a plein.
Ouais,
je te rassure. Maxime Saada, le boss de Canal+, s'est exprimé devant l'Arcom ce lundi. Alors, il a notamment commenté l'actuel dossier donc des droits télé de la Ligue 1. Je cite : malheureusement, la situation n'est pas une surprise pour nous. Nous sommes souvent taxés d'énervement, de rancœur ou d'amertume. Je peux comprendre pourquoi, mais le sujet est essentiellement économique. Canal+ a tenté face à Mediapro, puis face à Amazon, puis face à DAZN il y a encore quelques mois, de revenir dans le jeu de la compétition de la Ligue 1. La LFP ne l'a pas souhaité et Canal+ n'a eu d'autre choix que d'allouer ses ressources, qui restent relativement rares, sur d'autres compétitions, en particulier la Ligue des Champions. Donc nous n'avons plus les moyens aujourd'hui d'intervenir dans ce dossier. Nous espérons qu'il trouvera une issue positive pour le foot français, car nous restons très investis, notamment pour la Ligue des Champions, et nous espérons bien que les clubs français pourront y prospérer. Donc en gros, Maxime Saada, il est assez clair là-dessus.
Oui, mais ça, on ne découvre pas.
Non, il a été clair, quoi.
Certains avaient peut-être encore un espoir, mais on savait que c'était enterré définitivement. Leur catalogue de droits est complet. Leur économie roule comme ça, avec tous les produits qu'ils ont. Le foot, de toute façon, aujourd'hui, ce qui passionne le plus de gens, c'est la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe. Ils ont tout ça. Ils ont tout ça, ils peuvent remplir toutes leurs antennes, Europa League, machin, ils distribuent. Quand un match les emmerde, ils le diffusent sur la 10e chaîne, machin. Ils peuvent même le rétrocéder à qui tu veux. Hein. Ils ont tout. La Ligue 1, c'est fini. Il n'y a plus d'oseille pour la Ligue 1. Ils veulent plus en mettre. C'est terminé. On va pas refaire l'histoire des relations qui se sont pourries au fil du temps, et notamment du grand penseur l'Orléanais Labrune qui pensait qu'il allait les retourner. C'est en deux temps un échec monstrueux de la LFP
et même les
de
autres
s'être brouillé avec le diffuseur
même
historique.
Même les autres sports qui...
Ah bah ils ont quoi faire entre la F1, le... bien sûr.
Oui, moi j'ai ils font tout pour développer le rugby.
Ça marche très bien.
Oui, ça marche bien. Le rugby, ça marche. Ils en sont plus à avoir besoin de la Ligue 1.
Voilà. Et alors un peu plus tard, dans la journée, interview de Jean-Pierre Caillot, président de Reims et du collège de la Ligue 1. Et alors là, il évoque plusieurs thématiques.
On ne sait pas, mais on se doute un petit peu, c'est à quelle heure on a fait l'interview.
C'était
après déjeuner, c'est un peu.
En tout cas, elle a été publiée à 17h45 sur
le site de l'équipe. Elle a dû être faite juste à 14h45.
Alors, la Ligue 1 reprend le 16 août. Il n'y a toujours pas de diffuseur pour la saison prochaine. C'est la première question. Réponse de Jean-Pierre Caillot. La situation est évidemment préoccupante, mais par expérience, il ne faut pas malgré tout prendre des décisions dans la précipitation. Tout n'est pas fini dans la négociation. Là, il explique les plusieurs options. Il y a toujours l'option 3, présentée au conseil d'administration, qui peut être aboutie. L'option 2, c'est la chaîne 100% Ligue 1 avec Warner Bros. Discovery. L'option 3, c'est Bein Sport, nous explique-t-il. Voilà. Jusqu'au bout, on peut avoir de l'espoir. L'espoir fait vivre, dit-il. Donc, il essaye de positiver Jean-Pierre Caillot. Alors, le projet de chaîne est-il sur la table? Et là, il répond oui. Il y a un peu un ultimatum, car il faut du temps pour la démarrer. Mais si on doit reprendre la saison sans chaîne, pendant une ou deux journées, on assumera. Les gens iront au stade pour voir les matchs et on patientera. Je pense que c'est une erreur de démarrer quelque chose dans la précipitation, dit-il. Voilà. C'est l'une des déclarations notamment qu'il fait.
Oui, oui, mais bon, l'interview, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, elle est cataclysmique. Donc, deux matchs, un match, parce qu'il ne faut pas se précipiter, où les sponsors, notamment McDo, qui vient juste de signer un énorme chèque, il n'y a pas de visibilité. Les sponsors maillots, il n'y a pas de visibilité. Les panneaux du stade, il n'y a pas de visibilité. Tout va bien pour M. Caillot. On y va comme ça, un ou deux matchs, sans passer à la télé. Je ne parle pas du signal international. Tu as quand même également le signal international que tu dois à ceux qui ont acheté les droits internationaux. Donc en fait,
même la publicité.
Ce qui dit la publicité doit rentrer.
Non mais la publicité que tu donnes de ton championnat.
L'image à l'étranger.
Ouais, c'est
absolument catastrophique dans l'éventualité qu'il énonce. Ensuite, il y a les fameuses solutions. C'est qu'aujourd'hui, c'est très divisé.
Il dit que DAZN ne fait pas l'unanimité parce qu'ils sont pas garantis.
DAZN, ils en veulent pas.
Ouais.
Majoritairement, ils en veulent pas. C'est pas assez de sous, pas de garantie, voilà. Sauf, bon, il faudrait peut-être apprendre aussi qu'il y a certaines économies où les garanties aujourd'hui, il y en a plus.
Ouais.
Ils ont été habitués à être dans le confort et peut-être qu'il va falloir qu'ils prennent un risque. Le risque, ils vont le prendre avec la chaîne de la Ligue. Certains présidents sont contre, mais à partir du moment où l'Orléanais, Ben Morel, le grand penseur, le savant fou, l'homme qui a le cerveau qui fume en permanence autour des droits télé, d'ailleurs, on voit où ça nous a mené. Milite pour ça, CVC un peu également, les intelligents, c'est parce qu'il y a les intelligents et il y a parce qu'on parlait de classe tout à l'heure avec Fred Hermel, il faut voir aussi qu'à la Ligue c'est un peu ça, les intelligents, les penseurs, c'est les financiers, ou Gourian, Ferry, ils ont l'habitude de manier la grosse oseille. Et puis après t'as les artisans, Nicolin, Caillot, qui sont méprisés par les autres d'ailleurs. Les bouseux là, vous les sans-dents, vous allez crever. De toute façon, si vous n'avez pas de blé dans votre club, vous c'est terminé. Pour Kita, on parle même pas comment il le traite. Il le traite comme un clodo, limite.
Taisez-vous.
Voilà. Et eux, ils militent pour ça parce que ils ont un plan marketing de développement ultra perfectionné sur plusieurs années sur le fait que la chaîne puisse fonctionner. Ils ne connaissent rien à la télé payante. Quand tu t'informes sur l'histoire de la télé payante, déjà tu sais que il y a un cap des 15 euros qui est très compliqué à payer, que toutes les chaînes payantes sur le sport, le football se sont plantées. Même Bein, qui a un déficit qui s'est chiffré en milliards. Je parle pas d'Orange, de TPS, et même de nous, RMC, ça n'a pas été la grande gloire non plus quand on s'est lancé dans cette aventure-là. Et que Canal a proposé quelque chose de complètement différent, d'historique, avec les films, avec un foot qui est complet. Il n'y a pas que du foot, c'est une chaîne généraliste, historique, que les gens ont mis dans leur portefeuille à la maison, dans leur quotidien, et qu'ils n'ont visiblement pas retiré de leur panier. Quoi. Là, il faut leur demander d'aller mettre à 27 balles une nouvelle chaîne où effectivement on te proposerait des séries parce que paraît-il la Max ou Warner, ils vont sortir 2-3 séries qui éventuellement peuvent motiver. Mais tu vas pas motiver pour avoir 3 millions à 27 balles. Faut pas raconter n'importe
Jean-Pierre Caillot, il dit sur la fameuse chaîne, il dit les clubs ont des problèmes de trésorerie et ils ont besoin d'un fixe avec la chaîne, il va falloir un peu de temps pour qu'elle ramène de la ressource. Donc ils laissent entendre ce que tu dis, c'est-à-dire ils sont quand même sceptiques par rapport à ça.
L'oseille ne viendra qu'après. Il faut qu'il y ait des abonnés. Donc dans un premier temps, tu démarres à vide. Et puis si au bout d'un an, tu les as pas tes millions, tes deux, tes trois, parce qu'ils étalent ça sur plusieurs années, tu vas reculer le moment où tu seras dans la merde. En tout cas, puis en attendant, tu vas pas faire de folles dépenses. Et puis,
tu as évoqué le passage de l'avare ou pas encore?
Alors, non, alors, après, je voulais venir.
Attends, parce qu'il y a la troisième solution.
Oui, oui.
qui est celle de
Dombin, ouais.
Parce que beaucoup de présidents se disent qu'à un moment ou à un autre, il n'est pas possible
que
Benacer ne bouge pas.
Ouais.
Et ils se disent, on ne peut pas croire que tu nous lâches. Parce que certains étaient devenus un peu amis avec lui au fil du temps, notamment Nicolin, parce que Caillot également. Je ne sais pas, ils ont l'impression que c'est un peu leur bienfaiteur.
Bah, et puis ils se disent aussi, s'il y a son club dans la compète, il ne va pas le lâcher aussi.
Ils se disent qu'à un moment... Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi jusque-là, tu n'as pas bougé et tu vas bouger au dernier moment. La réponse à ça, c'est Nasser, voyant la catastrophe, mesurant que la Brune et pas son laquais n'est pas aussi costaud qu'il le pensait, il n'arrive vraiment pas à trouver quelqu'un et il se dit bon bah ok, il va falloir que j'y aille.
Ouais.
Ce qu'on apprend également, ce qui commence à se murmurer dans les milieux autorisés, c'est que lors des fameuses premières rencontres, les dîners élyséens au Qatar, faut pas croire, ils font rien gratos. Hein. Quand ils sont venus en 2011, c'est parce qu'il y avait eu des deals proposés par Sarko. D'abord, il y avait l'idée de la Coupe du Monde.
L'idée sur les plus-values immobilières.
L'idée d'acheter un club. Et plein de business dont tu viens de parler, des participations à droite à gauche et tout. Là, ce qui se dit, je vais attendre avant de préciser complètement ma pensée, mais on a demandé des contreparties diplomatiques qui n'ont rien à voir avec le football. Des choses politiques, donc. Qu'on aimerait bien voir du côté de la France, des genres de remerciements, des démonstrations publiques de l'amitié franco-qatar. On vous aime et on va peut-être même vers vous sur deux, trois choses diplomatiques qui, historiquement, ne seraient pas en phase avec les règles françaises depuis des années. Ce qu'on a répondu de ce côté-là au pouvoir, je pense que pour le football... La France ne va pas renier des principes diplomatiques vieux de plusieurs décennies. Donc, on a dit, l'émir, il va falloir quand même qu'il se calme dans ses demandes. Mais répondre par des remerciements officiels, le Qatar, vous êtes formidable, ce genre de choses-là, ça peut les satisfaire, les Qataris. Et au cas où, à ce cas-là, ils pourraient lâcher 500 millions.
Ils en sont là, quoi, en fait.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr
une petite carte de remerciement, un petit...
Merci le Qatar, vous nous avez sauvés, c'est vous qui sauvez le football français.
Ah oui, une communication un peu plus...
Une communication plus bienveillante.
Ouais, on est dans la diplomatie,
plus reconnaissante.
Et il y a un autre élément, mais je ne peux pas le dire, parce que tant que je ne vérifie pas, c'est trop gros pour être dit, je vais attendre un peu, mais un truc assez fort d'un point de vue diplomatique général qu'on aimerait bien au Qatar que la France fasse.
Alors on poursuit dans un instant.
Et les présidents sont convaincus qu'à un moment, le gars, il ne peut pas les laisser dans la merde, il va sortir l'oseille.
Et on va continuer notamment dégrainer. Alors il y a d'autres déclarations dans cette interview de Jean-Pierre Caillot sur le site de l'équipe. Alors il met un tacle à Canal déjà, notamment à Saada, donc il s'est exprimé un peu plus tôt.
Canal, c'est quand il termine en disant je vais me désabonner.
Ah ouais, mais justement, on va y revenir. Et puis vous allez voir. Il explique en gros, on a donné trop d'oseille.
Tu connais les audiences des matchs de Reims.
Non, on est chez les fous.
Il dit, mais tu sais que City Arsenal, ça fait 4 fois un match de Reims.
Je vais me désabonner de Canal. Mais qu'est-ce qu'on en a?
On en revient, on va vous lire les déclarations dans un instant. On vous attend au 32-16, bien sûr, avec Daniel Riolo et Walid Acharchoua. Tout de suite.
RMC, l'After Foot, Intégral Euro.
Nicolas Gilas.
En compagnie de Walid Acharchour avec Daniel Riolo, on a rouvert le dossier des droits télé avec les déclarations du jour de Maxime Saada, le patron de Canal+, et la réponse de Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, également du collège de la Ligue 1 aussi. Alors, Jean-Pierre Caillot qui a aussi répondu à Canal+, de façon indirecte. Alors, il déclare dans cette interview, il y a un opérateur majeur en France en matière de distribution, il parle de Canal+, qui clairement s'attaque au football et pense que la Ligue 1 est un produit qui n'intéresse pas ses abonnés, ce qui est une erreur à mon avis, même si cela n'engage que moi. S'il n'y a plus de Ligue 1, je ferai comme beaucoup de mes amis, je me désabonne, mais c'est comme ça. Voilà, déclaré, voilà, petite vengeance personnelle de la part de Jean-Pierre Caillot.
Bah alors là, c'est vraiment la vengeance personnelle. Là, vraiment, c'est je te mets une tarte et tu reviens, tu fais tiens,
voilà,
j'ai fait une chic note.
Il y a un peu de
ça. Non, mais c'est franchement, mais c'est grotesque.
On est chez les fous.
Mais enfin, il le sait, les audiences que ça peut faire, Reims, mais ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout.
C'est quoi? C'est Marseille, PSG qui est
de loin devant, Lyon ensuite, mais même Saint-Etienne qui est en Ligue 2. Mais ça mange Reims matin, midi, soir en termes d'audience.
Il parle pas que de Reims. Il parle de toute la Ligue 1 entre guillemets.
Non, mais en d'accord, gros, mais que lui, le patron de Reims, qui de toute façon n'est là que pour croquer les miettes. Mais un peu de modestie, va pas donner une interview pareille. Mais va pas dire ça. Mais ça va pas ou quoi? Mais dis pas un truc pareil. Mais tu dis à Canal ça. Mais Canal, il va te regarder. Sada, il va dire. Mais Coco, quand je diffuse la Première Ligue le samedi après-midi, si je mets un match de Première Ligue et en face un match où il y a Reims dedans, s'il y a le PSG contre Reims, ça va peut-être faire plus, mais si c'est une autre équipe, mais mon match de Première Ligue, il fera plus que toi, de quoi tu parles?
Faudrait même regarder avec la MotoGP.
Et alors, tu disais tout à l'heure, c'est vrai que ce sont des chefs d'entreprise. Et alors justement, on lui pose la question, comment les clubs comptent faire dans cette période de récession? Alors il dit, Jean-Pierre Caillot, quand tu es dans l'opulence, dans une entreprise, souvent les décisions qui sont prises, c'est toujours d'accorder tout à tout le monde. Aujourd'hui, il faut se poser les vraies questions. Et on va aussi en discuter lors de la réunion de jeudi. On n'a plus les moyens, il y a plein de choses qui doivent être mises en question. Et là, le journaliste lui demande, mais vous pensez à quoi? À tous les postes sans exception, le VAR, ça coûte beaucoup d'argent, est-ce qu'il faut continuer? Moi, je t'avoue que cette réponse m'a beaucoup étonné de me dire, bon, à la limite qu'on veuille arrêter l'assistance vidéo comme les clubs de PL se le sont demandé, oui, mais pour des raisons, j'ai envie de te dire, philosophiques, quoi.
Oui, oui.
Mais là, les mecs se disent, sur quoi on pourrait économiser sur l'assistance vidéo? Mais c'est ouf quand même d'en arriver là, non?
Ouais, c'est cher que ça, le...
Ouais, il pourrait dire aussi sur les frais de production, au lieu d'avoir 32 caméras, on n'en met plus que 10, et on filme comme il y a 20 ans. On pourrait accessoirement penser au déménagement de la Ligue à 40 000 le mètre carré pour satisfaire les ambitions de grandeur de l'Empire orléanais. On pourrait également parler de son salaire, triplé.
Non, alors lui, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Lui, il dit.
Salaire triplé à l'avance, parce qu'il a fait rentrer, on l'a pas vu l'oseille, mais il l'a fait tripler avant. Ça va venir, les gars.
C'est pour CVC.
Alors cela dit, il a d'autres idées, sinon Jean-Pierre Caillot, pour faire des économies. Il dit, on donne des sommes importantes à plein d'autres familles, joueurs, entraîneurs, syndicats. On est toujours critiqué, mais on verse beaucoup de contributions. Il y a un moment, il faut que tout le monde se serre la ceinture. Il n'y a pas que les clubs et les présidents qui vont assumer. Des clubs avec des capitaux traditionnels n'ont plus les moyens de supporter tout ça. Voilà ce que dit Jean-Pierre Caillot. Donc visiblement, ils veulent faire des économies.
Ils vont en faire. Ah là, et là, à mon avis, il va changer de resto. Okay,
voilà.
Là, il va revenir, là, il va se faire un petit routier entre Reims et Paris quand il viendra bouffer. Il va arrêter les hôtels de luxe. Là.
C'est pas toi qui avais raconté l'anecdote sur les commentateurs de Canal, non? C'était lui, c'était Caillot ou c'était un autre?
C'était absolument Caillot. C'était Caillot qui était allé voir deux mecs de Canal qui commentaient à Rennes, oui, donc à Rennes-Reims. Et qui a dit, alors, on met pas d'argent dans le foot, fini? Vous serez au chômage dans deux mois, les gars.
Ah oui.
Il a dit ça au mec de Canal. Donc, finalement, il y a une continuité dans cette phrase.
Oui, oui,
la vengeance.
Je vais me désabonner.
Il y a l'épisode 2.
Moi, je pense que Saada, ce soir, il dort pas. Il dort pas. Il entend du Caillot, va se désabonner. Demain, je pense qu'il dort pas.
Demain, il y a brainstorming à 9h, les gars. Rendez-vous. Je pense que sur WhatsApp, là, le groupe WhatsApp Canal, je pense que tu sais, les grosses alarmes, là. Les gars.
Les gyrophares, là.
Les gyrophares, exactement, les gyrophares. Attention, demain, 9h, on change nos plans.
Caillot se désabonne.
On achète la ligue.
On risque le désabonner.
Voilà pour le dossier des droits télé du jour. Il y a autre chose qu'on voulait évoquer également. Alors, c'est les déclarations de Marcelo Bielsa. Rien à voir, oui et non, parce qu'il parle beaucoup également de, j'ai envie de te dire, de l'évolution du business du football. Il s'est exprimé en marge de la Copa América. Vous savez que Marcelo Bielsa est sélectionneur de l'Uruguay, qu'il est demi-finaliste de la compète. Il affrontera d'ailleurs en demi-finale la
Attends, mais tu parles de qui, là?
Marcelo Bielsa.
Attends, deux secondes, on n'a pas terminé.
Juste un
dernier truc. Parce que hier, on en parlait avec Gilbert. Donc, parce que mine de rien, le responsable de tout ça, c'est quand même celui qui a la tête de la LFP, quand même. Oui. Qui se fait passer pour le grand penseur, le savant, celui qui sait tout depuis des années. Faut quand même savoir que dans le milieu des diffuseurs, depuis des années, il y a très longtemps, son surnom, c'est la petite frappe. Donc c'est pas le génie du marketing, des médias et tout. C'est le gars, la petite frappe, le mec qui cherchait à entourlouper. Voilà. Beaucoup de grands patrons de médias le surnommaient comme ça à une époque quand il allait, parce qu'il a commencé dans les médias, dans la com. Et tout. Voilà son surnom depuis le milieu des années 2000, la petite frappe.
La petite frappe, c'est
valorisant, la petite frappe.
C'est pas pour les frappes de Verratti, quoi.
Non, on sent le mec qui pèse, quoi, tu vois, qui a réalisé de grandes choses dans sa vie. Voilà. Bon, c'était tout, ça me faisait plaisir de raconter.
Bon, voilà, un tacle de la grosse frappe. Et donc, je vous ai Marcelo Bielsa qui s'est exprimé, le sélectionneur de l'Uruguay en marge de la Copa América. Alors, il a évoqué plein de thématiques. Je sais que vous vouliez en parler, les mecs, El Loco. Alors, on va débuter par l'arbitrage et des polémiques qui en découlent, notamment sur l'assistance vidéo. Voilà ce que dit Bielsa. Dans la mesure où on estime que personne ne peut se tromper et que si quelqu'un se trompe, il faut le montrer du doigt et l'accuser, cela crée une série de conditionnements qui œuvrent psychologiquement sur ceux qui doivent arbitrer. C'est beaucoup plus difficile d'arbitrer que de jouer et le regard sur ceux qui jouent est bien moins exigeant que sur les arbitres. Voilà ce que dit Bielsa, notamment sur l'assistance vidéo. Il est assez d'accord finalement avec.
Bielsa, moi je disais ça il y a 15 ans déjà, mais c'est bien qu'ils le disent.
Bah, il était à écouter. Fallait juste le traduire en fait. C'est pas.
Non, je plaisante évidemment que je suis d'accord avec le maître Bielsa.
Voilà, on est d'accord, Walid.
Tout est juste.
On est d'accord. Alors sur le jeu, il a beaucoup parlé des jeux également. Et là, il déclare, dans la mesure où le jeu devient totalement prévisible, et c'est vers cela que longtemps, il perdra de plus en plus de son attrait. Je suis sûr que le football est en déclin. Il y a de plus en plus de gens qui regardent du foot, mais il est de moins en moins attractif parce qu'on ne privilégie pas ce qui en fait le premier sport au monde. Si vous laissez beaucoup de gens le regarder, mais que vous ne vous assurez pas que ce qu'ils regardent est agréable, cela favorise le business. parce que le business, est-ce que beaucoup de gens regardent, mais cette croissance s'arrêtera, dit-il. Voilà ce qu'il dit notamment là-dessus. C'est un peu finalement le débat qu'on a autour du niveau de jeu à l'euro aussi. La multiplication des matchs est bien, mais si ce qu'on regarde n'est pas bien, finalement, on ne voudra plus regarder.
On va ajouter aussi la Copa América parce que les échos qu'on a.
En fait, le truc, c'est est-ce que la multiplication des matchs provoque une forme de lassitude? Ou est-ce que l'évolution du public, où tu sais qu'aujourd'hui, tu as des études marketing qui t'expliquent dans tout ce qui est les séries télé, quand on pense à comment construire ce genre de choses, on te dit que le temps d'attention ne fait que se réduire. Que en gros, tu avais 10 secondes d'attention continue. Aujourd'hui, on est descendu à 5. Que par exemple, n'importe quel jeune, vous êtes vous-même jeune, donc vous ne voyez pas de petits jeunes autour de vous, mais moi j'en ai. Ça n'existe pas quelqu'un qui regarde un match de foot aujourd'hui.
Alors lui il répond à ça aussi et il dit
ça n'existe pas. Aujourd'hui, tu regardes le match et un autre écran en même temps.
Mais lui il dit, tu vois, il déplore notamment la culture des highlights et il dit le football ce ne sont pas 5 minutes d'action, c'est bien plus que cela, c'est une expression culturelle, une forme d'identification. Et il dit demander à un Uruguayen qui regarde les highlights de la Céleste, ce sera de plus en plus le cas, mais cela n'a rien à voir avec ce qui a permis à une population de tomber amoureuse d'un symbole d'identification. Voilà, c'est ce qu'il dit finalement.
Moi je suis d'accord avec ce qu'il dit. Bon, d'abord, pour être tout à fait juste, je suis pas sûr que si tu regardes, on reprend tous les matchs de l'Euro, j'en sais rien, l'Euro 92, comme ça, je dis ça au hasard, ou Mondial 90, ou que tous les matchs étaient beaucoup plus passionnants que ceux qu'on voit là. Ça, je crois pas trop, moi, à cette version, parce que le foot a évolué dans un sens de plus de spectacle.
Oui, mais peut-être
quand t'avais la passe au gardien, quand t'avais le plus de fautes, moins de cartons.
Oui, mais la rareté, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça y fait certainement, non?
Je pense que c'est plus là qu'il faut mener la réflexion, c'est que la rareté faisait que tu te souviens plus de matchs et qu'aujourd'hui il y a une telle profusion, il y a une telle quantité et un manque d'attention, comme je le disais, parce que tu regardes un match en même temps, t'as ton téléphone, t'envoies un message à Walid pour débriefer le match alors qu'il est même pas terminé. C'est d'ailleurs ce qui m'arrive de faire d'ailleurs. Voilà.
Beaucoup trop de fois sur Luis Enrique. Et alors ton génie là, ton compo là.
Non, c'est jamais ce temps-là. Toujours un peu d'ironie.
Oui, toujours un peu d'ironie. Toujours un peu d'ironie.
Tu sais que j'ai tellement fait de pub à Jiffy.
Qui t'ont envoyé des trucs?
Non, il y en a un qui a ouvert à côté de chez moi. Ils sont venus ouvrir, ils se sont dit comme ça, il viendra. Ils l'ont fait exprès. J'avais jamais vu un Jiffy d'aussi près. Maintenant,
ils t'ont jamais rien envoyé, les mecs, pas des chèques cadeaux.
Non, là, franchement, je pense qu'ils abusent vraiment.
Ouais. En plus, il y a des trucs sympas.
Ah, là, ils devraient m'offrir des caddies pleins.
Carrément.
Je pense,
Il y a quoi? Il y a un peu de tout, c'est ça?
Bah ouais, c'est bazar. C'est la foire-fouille, quoi.
Après, là, ça va s'arrêter. L'année prochaine, tu le diras plus.
Non, on change chaque année.
Pas chaque année.
Il va certainement devenir très bon maintenant.
Exactement.
T'inquiète pas. Oui, donc on disait quoi? Oui.
Les téléphones.
On en regarde tellement que même nous, parfois, il nous arrive d'être lassés d'en voir trop et il faut se reconnecter pour justement faire attention à ce que notre avis quand on regarde un match, il soit pas uniquement véhiculé par le fait qu'on en a vu 10 avant et qu'on est un peu lassé. Rester objectif et voir que non, je suis pas d'accord. Tous les matchs dans cette ronde n'ont pas été complètement pourris.
Non, c'est vrai qu'ils n'ont pas été complètement pourris, mais c'est vrai que moi je trouve que il y a un déferlement autour de cet euro où je vois pas une énorme différence par rapport aux derniers dernières compétitions, notamment l'Euro 2021. Moi, je me refaisais les matchs là un petit peu là, pas les matchs visuellement, mais juste les scores, etc.
Tu regardais, tu disais que là c'était.
Je me souviens de ce buteur, je me souviens de cette compo, je me souviens de. Et il y avait quand même. Moi, je me rappelle à l'Euro 2021, hormis l'Italie, l'équipe fraîcheur, c'était le Danemark.
Oui,
on disait beaucoup de bien l'Euro 2021 du Danemark. Oui. C'était la seule équipe qui nous faisait un petit peu rêver.
L'Espagne faisait beaucoup moins rêver qu'aujourd'hui.
Exactement, l'Allemagne était moins forte. Le Portugal était moins forte ou équivalent. La France s'était fait sortir en huitième. On n'avait pas eu des trucs dingues. L'Euro 2016, moi, c'est l'Euro le plus dégueulasse que j'ai vu sincèrement.
En termes de jeu, c'était l'Euro 2016. Il y avait les matchs de poule des Français contre des équipes en bois. Après, il y a eu Islande, Pays de Galles.
Mais même au-delà de l'équipe de France, moi, je me rappelle, j'avais été voir stade Pays de Galles-Portugal, la demi.
Qu'est-ce qu'on leur a mis?
Mais ça avait été une horreur. Ça,
mais encore, c'est l'un des moins mauvais matchs des Portugais.
Oui, mais globalement, donc, c'est vrai que on doit se pencher sur ce qui se passait avant. C'est bien que tu nous parles de l'Euro.
Après, attention. Coupe du Monde 90. Enfin, il y a aussi eu avant des trucs qui étaient pas ouf non plus. Euro 2000, moi, j'ai un souvenir génial.
Vous êtes plus vieux que moi.
Même 94. Moi, j'ai adoré la Coupe du Monde 94 parce que c'est la première que j'ai vraiment suivie. Mais après, quand j'ai comparé avec ce que j'ai eu derrière, je me suis dit, c'est pas ouf quand
moi,
même.
Par exemple, moi, mes deux compétitions.
La Coupe du Monde 98, elle est pas dingo non plus. T'as 3-4 bons matchs.
Même l'Euro 96, j'ai kiffé quand même.
Moi, mes deux compétitions, vraiment, mais j'étais petit. J'ai entre 7 et c'était 15 ans. C'est l'Euro 2000.
L'Euro 2000, c'était ouf.
Et la Coupe du Monde 2006. Pour moi, c'est les deux compétitions 2006, ouais. Je trouve, mais sinon.
Oui, après, c'est rattaché à un moment de ta vie où t'es enfant, tu découvres et t'es content.
J'ai pas les mêmes yeux. Oui. Aujourd'hui, je regarde, je sais pas combien de matchs à l'année.
Ce qui est vrai dans ce que tu dis, Bielsa, c'est l'abondance, le trop plein et le fait que t'as un manque d'attention qui fait que le foot, en fait, il est sur un fil entre je vais plus regarder. D'ailleurs, t'as qu'à voir les audiences. C'est pas parce que la France joue mal qu'il y a également une baisse. Il y a pas que de ça. Il y a aussi une forme de lassitude. T'as eu une compétition au Qatar, c'était il y a pas si longtemps que ça. Est-ce que tu vas regarder? Tu regarderas peut-être plus s'il y a la finale. Voilà, il y a d'autres choses à faire aujourd'hui. Ouais. Il y a plus de concurrence, il y a d'autres sports,
avant l'Euro, il n'y avait pas de hype.
Mais
avant
tu sais
l'Euro,
quoi, je vais dire un truc. Moi, je suis pas la Formule 1 à la saison. Et demain, il y a Formula One à regarder sur Netflix, mais je suis le premier à cliquer.
Oui, parce que la Formule 1 s'est battue en termes de marketing pour reconquérir des marchés.
Et je pense qu'il y a des gens qui aujourd'hui vont consommer le foot à travers des documentaires.
Mais est-ce que par contre, ceux qui ne consomment pas de foot toute l'année,
moi, je pense que
c'est devant l'Euro. Faudrait poser la question à ces
marques. Non, mais moi, je pense qu'il y en a qui consomment à travers des documentaires. C'est-à-dire, ils vont avoir le choix. Ils vont se dire, tiens, j'aime refaire le.
Après aussi, il y a le fait qu'on a, on a beaucoup d'exigences aujourd'hui.
Bien sûr.
Moi, j'ai une exigence. J'ai une exigence envers les joueurs et envers les matchs qui est peut-être démesurée par rapport à ce qui se passait avant. Dès que je me fais chier, je me fais chier rapidement. Dès qu'un joueur est mauvais, on va le dire un peu plus fort qu'avant.
Et
bien,
justement. Et bien, Bielsa, il parle de ça aussi, notamment du traitement et des critiques des journalistes. On en parle dans un instant également. On sera avec Mohamed qui nous a appelé au 32-16 et on revient sur les déclats de Bielsa, sur l'évolution du foot avec Daniel Riolo et Wally.
Il faudra me laisser 5 minutes pour Bordeaux parce que demain, DNCG, ça pue.
Pas le cas.
Ça pue du boule.
Et bien, ça tout de suite pour le boule.
RMC, l'After Foot, Intégral Euro,
Nicolas Gilas.
Et Daniel Riolo et Walid Acharchour avec vous également au 32-16 sur toujours sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Tu veux pas confier ça avec Bielsa?
Ah oui,
c'est trop d'éclats encore. Les déclats de Marcelo Bielsa, alors qu'il a aussi parlé du niveau des joueurs, il a dit plus le temps passe, moins il y a de footballeurs qui méritent d'être regardés, moins le jeu produit est agréable, cette augmentation artificielle du public va subir une réduction. Et on a Mohamed qui nous a appelé au 32-16 et qui voulait réagir à ça, notamment au niveau des joueurs. Salut Mohamed.
Salut, bonsoir.
Ça va Mohamed?
Ça va et vous?
Ouais. Alors qu'est-ce que t'as pensé toi de cette sortie de Marcelo Bielsa?
Alors moi je pense que la sortie de Marcelo Bielsa, il faut la découper déjà pour moi en deux points et séparer le foot de club et le foot international.
Alors vas-y.
Pour moi le foot international aujourd'hui, il paye le trop plein de matchs qu'il y a dans les foot de club. C'est-à-dire que les joueurs quand ils vont en sélection, aujourd'hui quand on regarde les matchs amicaux, les joueurs ils sont au repos, ils y vont pour se reposer. Les matchs amicaux n'ont plus aucun intérêt et là on en vient au point où même les compétitions deviennent des purges à regarder quand on prend la Copa et l'Euro cet été, car les joueurs, en fait, ils arrivent, je sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais ils arrivent complètement éteints, en fait, ils arrivent beaucoup trop fatigués, et ça nous donne des compétitions internationales molles et vraiment désagréables.
Ouais, ça peut être. Alors on en revient, hein, c'est la multiplication des matchs dont on parlait également.
Après, tu t'es éclaté cette année dans le football de club?
Moi, je trouve que quand il dit, par exemple, Bielsa, que le football est devenu prévisible, moi, je trouve pas d'avoir Dortmund en finale de Ligue des Champions, c'est quelque chose que j'ai pas trouvé prévisible.
Après, peut-être qu'il parle du jeu en lui-même.
Oui, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère du football et on est dans une ère plutôt défensive. On a des clubs.
C'est pas forcément défensif, c'est plus athlétique.
Voilà, athlétique. Voilà, c'est exactement ça. Quand on voit, on est sur un football beaucoup plus de transition. Quand Daniel, il disait toute la saison que je l'écoutais, le Real avec son jeu minimaliste. Et malheureusement, ou heureusement pour certains, c'est ce qui gagne. Donc au final, on se retrouve avec de plus en plus de clubs qui vont prôner ce jeu-là. Et du coup,
oui, parce qu'avec une forte athlétisation, tu peux foutre une pression sur l'équipe qui essaye de jouer au foot. C'est ce que d'ailleurs veulent faire les Bleus demain contre l'Espagne. C'est en pesant de façon athlétique et physique sur l'équipe qui essaye de construire quelque chose, tu peux les casser en deux. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit également dans le football de club. C'est que tu peux résister, tu peux physiquement courir indéfiniment derrière le mec qui veut te faire courir derrière la balle. Aujourd'hui, on est tellement capable de faire toujours plus d'efforts et en plus tu peux faire rentrer 5 mecs même si tous les entraîneurs le font pas, c'est-à-dire que tu peux avoir un renouvellement d'énergie pour que ce soit toujours plus athlétique et qu'en fait ce soit le foot de transition qu'on appelle maintenant comme ça qui gagne quoi.
Et pour moi, je suis complètement d'accord. Et le comparatif qu'on a, moi que j'aime bien faire en tant que supporter du Real, c'est de comparer par exemple le milieu en losange qu'a eu le Real sous leur Zidane et les joueurs qui les ont remplacés. On a un Isco qui a été remplacé par un Bellingham, un Kroos par un Camavinga, un Modric par un Valverde et un Casemiro par un Tchouaméni. Donc en fait, on a rapporté beaucoup moins d'aisance technique et beaucoup plus de densité physique.
C'est intéressant. Alors, c'est vrai.
Ça gagne aussi comme ça. On est sur 2 millions en losange et 2 millions en losange complètement différents. Et on avait du coup Benzema, Cristiano Ronaldo. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Vinicius, Rodrigo. Donc le Benzema, on l'a plus. On se retrouve avec vraiment deux flèches et avec ce football plus minimaliste, avec vraiment des transitions jouées à 2-3 joueurs et une énorme densité physique.
Pour la transition réelle, tu la joues pratiquement qu'avec Vinicius.
Exactement, et ça, ouais, et ça peut suffire.
Donc en fait, pour moi, c'est pas forcément un processus de déclin, mais c'est une transition vers un football beaucoup plus physique, beaucoup plus dense. Mmh. Et la deuxième chose, du coup, si je peux ajouter, c'est quand il dit qu'il n'y a plus de joueurs attrayants. Mais pour moi, en fait, le problème, il est interne au football, c'est que ça passe par la formation. Aujourd'hui, on apprend aux joueurs à plus avoir de caractère, à rester dans des moules, à avoir des images hyper lisses.
Et en faire des athlètes plus que des. Il y a moins de place pour la créativité.
Ouais, c'est ça. L'expression n'existe plus. Mais au-delà du. Football,
aujourd'hui, on parle beaucoup, depuis le début de la compétition, de l'aspect physique. Ah, mais physiquement, il est cuit. Ah, il est éteint. Oui, mais il doit rester normalement une base technique.
Aujourd'hui, ça suffit plus.
Voilà. Donc en fait, t'as l'impression qu'ils sont pas 120% physiquement. Ces mecs-là, ils sont. C'est terminé. Et c'est ce qui moi me dérange un petit peu. C'est que dans les nouvelles, chez les nouvelles stars. Non, mais je parle d'Mbappé.
Mais Mbappé, quand il dit, d'ailleurs lui-même le dit, c'est-à-dire tout est remis sur le problème de la préparation physique, comme si le talent n'était que ça, tu vois.
Oui, voilà. Donc à un moment donné, on aimerait avoir. Parce que je pense que c'est de ça qu'il parle aussi, Bielsa, c'est que il y a quand même beaucoup de joueurs robots. Beaucoup de joueurs qui athlétiquement sont impressionnants et on se retrouve peut-être un peu moins esthétiquement et puis même subjectivement chez certains joueurs.
Après lui, ce qu'il déplore aussi, parce qu'il en parle aussi quand il dit que le football est une propriété populaire mais que maintenant elle ne l'est plus et qu'il y a des joueurs qui quittent notamment l'Amérique du Sud de plus en plus jeunes. En fait, ce qu'il explique aussi, c'est que les joueurs qui étaient là, qui avaient une identité, on en revient à la notion d'identité, qui restaient dans leur club. Il prend l'exemple de la Copa Libertadores en 92 que le São Paulo de Raí et tout a remporté. Il dit ça n'existe plus. Il part à 17 ans,
mais
ils ont
s'athlétisé, se européanisé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des agents, parce que les mecs partent pour faire du blé.
Il en parle d'ailleurs de ça.
Ils partent pour faire du blé. Ouais. Et c'est le côté économique qui fait que ça sèche là-bas.
Merci Mohamed d'avoir été avec nous.
Pas de soucis.
À très vite, Mohamed. Tu reviens quand tu veux. C'était très intéressant. Juste un dernier aspect qu'évoque également Bielsa, c'est le traitement journalistique et le rôle des médias également. Il dit ce que nous devrions tous faire, c'est ignorer le scénario qu'on nous propose où la polémique, le débat, l'accusation deviennent une obsession qui empire le climat dans lequel le football doit être joué. En gros, lui, il a fait une longue tirade également aux journalistes en disant, il s'adresse notamment à l'un d'entre eux qui lui pose une question sur les transferts des joueurs. Il dit mais vous me donnez la parole à moi parce que je suis sélectionneur de l'Uruguay, mais en réalité, c'est vous qui devriez mener ces enquêtes et aller au fond de ces choses-là. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme le business et les agents, etc., sont de mèche avec les médias, eh bien, personne n'ose vraiment aller au fond de ces choses-là. Tu partages cette opinion ? En fait, il parle un peu de nous, finalement, aussi. On aime bien être dans le débat, dans
oui,
le...
Oui, mais nous, on n'est pas de mèche avec les agents. Non, on ne se fait pas endormir par leurs propositions et on ne répète pas ce qu'ils nous disent de dire.
On est peut-être souvent... Enfin, moi, je parle pour moi, on est peut-être souvent dur et exigeant... Envers les meilleurs joueurs ou envers même les entraîneurs actuellement. J'en parlais tout à l'heure. Peut-être qu'avant c'était différent, mais est-ce que avant c'est le fait de ne pas avoir entre guillemets des critiques ou une grosse pression qui faisait qu'on avait des meilleurs matchs? Je suis pas sûr.
Non, lui il parle de l'hostilité plus autour du.
Comme je le dis souvent, quand tu regardes par tradition déjà d'une ce qui se fait en Amérique du Sud,
la pression,
au Portugal, en Espagne, en Italie, en termes de critiques, ou en Angleterre.
Justement, limite,
on est un peu des enfants de
cœur. Oui, mais lui déplore globalement.
Moi, quand je vois la presse anglaise sur Southgate depuis le début de la compétition, je me dis qu'on est. Ça va, il y a de la marge.
Oui, c'est bon, on est tranquille. Oui, nous Deschamps le câline.
Ouais, non, mais. Ou même d'autres, d'autres sélectionneurs.
Deschamps, s'il est en Angleterre, des procès, il n'en fait pas qu'un. Hein. Il en a 150 sur son bureau.
Après, il dira qu'il aura fait gagner une compétition à l'Angleterre, entre guillemets, et qu'il y aura eu moins de critiques.
Les gars, on clôt le débat. Bielsa, tu voulais dire un mot sur les Girondins de Bordeaux qui sont dans une situation très, très délicate.
Parce que la situation est quasi terrible. Parce que demain, passage devant la DNCG. Alors la dernière fois, Lopez, il connaît 2-3 personnes à la DNCG, donc ça sert quand même de connaître des gens. Donc il a réussi à les endormir la dernière fois. C'est ce qu'il fait de mieux dans sa vie, endormir les gens, les entourlouper, en leur disant qu'il y avait un actionnaire qui allait arriver avec les 45 millions. Bon, évidemment, il est jamais venu, le gars. Il n'y avait pas. Et demain, faut passer. On va lui demander. Il n'y a pas les sous. Donc, il n'y a pas les sous.
Et donc ?
C'est bizarre, ils ont vendu David Hachvili 6 millions d'euros à Saint-Etienne. suffit pas.
Et oui. Et c'est quoi son prénom, ce genre?
Le géorgien, j'ai pas son prénom.
Oui.
Davidashvili.
Ils ont vendu. Et d'ailleurs, Admar Lopez était même pas au courant.
Ah ouais.
Oui. Donc, c'est dire si ça roule au club. Et donc, l'autre possibilité demain devant la DNCG, c'est qu'ils disent bah, c'est bon, vous inquiétez pas, en fait, j'ai pas trouvé l'oseille là, mais j'ai vendu le club. Donc, c'est ce qu'il va dire demain. On va lui demander des garanties de la vente. Et le suspense, c'est de savoir s'il est encore mytho ou pas là-dessus. A priori, il n'y a pas d'acheteur.
Et donc, il se passerait quoi? Il va se passer
que ça peut se finir. La DNCG va d'abord l'écouter, va lui dire finalement c'est pas les 45 millions, c'est vous vendez. Oui, bon, qui achète? C'est bon, c'est un fonds d'investissement américain, vous avez les garanties, va sortir des papiers, vrai ou bidon, je ne sais pas, ou il va leur demander un délai pour finaliser la vente. Est-ce que la DNCG va encore dire oui? Jusque là, ils ont fait beaucoup de faveurs à Gérard Lopez, mais indirectement c'est des faveurs à un club quand même important comme Bordeaux. Mais là on est au bout du bout du bout, parce que je ne sais même pas s'il existe réellement ce vendeur. Avec Gérard Majax Lopez, on sait jamais. Si, on sait que c'est souvent mytho au bout. Donc ça peut se terminer dans le mur. Visiblement, je ne sais pas si on est complètement inquiet à Bordeaux. Il n'y a plus une thune, même pour payer le PQ et pour tondre la pelouse. Mais demain soir, pour France-Espagne, il n'y a pas de problème. Il y aura une grosse fête au stade.
Bah voilà,
tout ils organisent bien. Une grosse fête. Ils envoient champagne, petit four et tout ça. C'est bon. Je ne sais pas avec quelle oseille ils organisent ça. Mais en tout cas, il y a grosse fête demain.
Peut-être avec l'agent de Davidashvili.
Il a servi à ça, évidemment.
En tout cas,
Parenthèse, il y a un club aussi au Portugal avec Boavista. Alors, ils ont eu au Portugal, il y a une DNCG qui a été mise en place il y a quelques années. En gros, il faut que trois fois dans la saison, les clubs prouvent qu'ils n'ont pas de dette vis-à-vis du fisc, de la sécurité sociale et des joueurs. Donc, les salaires sont à jour. Et donc, il y a une licence qui leur est attribuée à la fin de chaque saison en disant bon, bah, c'est bon. Ils sont passés miraculeusement devant la DNCG au Portugal aussi. Et là, c'est à sa décharge. Quand il reprend le club, il y a une dette de plusieurs dizaines de millions d'euros dont il hérite, mais dont il s'était porté garant.
Ah ben oui, mais le problème, c'est que lui, il arrive tout le temps, là, vous êtes endetté. Et puis après, il dit, je vais vous sauver, il fait une dette encore plus grosse.
Là, pour que vous sachiez, Jaime Pacheco, qui était l'entraîneur de l'équipe qui avait été championne en 2001, il a été obligé de payer les dettes de 2001 du club à Jaime Pacheco, qui avait porté plainte. Enfin bref, il est dans une situation cataclysmique au Portugal aussi. Hein. Donc, bon courage au club.
Ah, mais c'est sa vie, hein. Mais lui, ouais. T'inquiète pas, parce que tout ça, il le fait avec de l'oseille qui n'est pas à lui. Hein.
Ouais.
Les clubs de
non, mais
foot,
bon courage machin, à ceux
ça.
Qui sont dedans, quoi.
C'est de l'oseille qui est pas de lui. Tout ça, c'est de la mousse. Lui, il a son vrai oseille. T'inquiète pas, hein. Il a la maison à Miami. T'inquiète, il est tranquille, hein. Il a deux, trois maisons à droite, à gauche. T'inquiète, son juillet, août, il sera sur un yacht, hein. Il pensera pas à Nicolas Villas, hein.
Bon, c'est dommage. Bon, après, j'ai pas trop envie d'aller sur un yacht. Je sais pas si j'ai pas le mien, le mer. C'est bien les yachts. J'ai jamais fait le yacht.
Petite barque, moi.
Oui, bateau quand même. Enfin, on est d'accord.
Où ça c'est ça qui est
on va pas refuser quand même.
Non, mais où la barque pour,
si t'es invité, tu vas pas refuser.
Mais la barque est de lui. Non, mais où ça?
Hein? Comment ça, où ça?
Où ça? Bah, tu l'as fait où la barque? C'est ça qui est important. Non, c'est le contexte.
Barque, j'avais emmené madame une fois.
Elle est là.
À Paris, là, une petite.
Au Bois de Boulogne?
Ouais, à côté du Bois de Boulogne. Là,
avec les rames, là?
Ouais, exactement.
Oh putain, t'as dû mettre de l'eau partout, toi. Elle a dû rentrer trempée, la pauvre.
C'est une catastrophe.
Bah, j'imagine, ouais.
La première année.
En vacances, t'as déjà dû faire du bateau, arrête de faire le gars.
Non, j'ai fait
des vacances. Des vacances 5 étoiles où tu te perds au buffet petit déj, t'as pas quoi prendre.
Mais pas le bateau.
T'as forcément dû prendre une sortie bateau.
Privilégier les locations de voitures, on fait une petite voiture et puis on se balade tranquille.
Le scooter, là, où t'étais à moitié à poil dessus. Là, c'est quoi?
Ouais, c'était en Thaïlande, ça, mais oui. C'était un bateau, ça. À moitié à poil dessus, j'étais torse nu, je suis en vacances. Ils disent, moitié à poil.
Mais à poil sur les scooters.
Ah ouais, est-ce qu'on n'a pas le droit en plus de faire ça?
Mais si, on a le droit là-bas, on prend une petite bronzette.
Ah, on peut tout faire en Thaïlande, quoi.
Pas tout.
Apparemment.
Pas tout, mais beaucoup de choses.
Un Walid à poil sur un scooter. Qu'est-ce que j'aurais voulu être un scooter? Bon, les gars, merci. C'est déjà la fin. Voilà. On remercie Daniel Torres à la réalisation. On remercie Jérôme Thomas à la production. On se retrouve demain, bien entendu. Ah oui, demain, je vous rappelle, à partir de 17h à Bondy, hein, là où tout a commencé pour William Saliba et Kylian Mbappé. On sera là jusqu'à minimum 1h30 du mat, voire même 2h. Avec la Libre,
ouais, demi-finale d'Euro quand même demain.
C'est pas mal, hein.
Faut qu'on profite.
France Espagne.
Ouais, faut qu'on profite.
Allez, à demain. Merci Daniel. Merci Walid. Bisous. Ciao. Prenez soin de vous. À demain. Ciao.
RMC. L'After Foot Intégral Euro.